Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au 29e rencontre de Pétrarque. C'est donc notre dernier rendez-vous pour cette année, ici à Montpellier, dans la cour ombragée, heureusement d'ailleurs, cette semaine, du rectorat. Alors ce vendredi, notre ultime rendez-vous aujourd'hui pour clore cette semaine que nous avons intitulée, je vous le rappelle, Liberté, Égalité, Fraternité et Demain. C'est un thème, on le disait dès lundi, qui nous avait paru assez évident, puisque la devise républicaine et puis toutes les notions qui l'accompagnent, comme la citoyenneté, le vivre ensemble, de plus en plus la laïcité, sont des notions qui ont assez vite servi de rempart au choc provoqué par les attaques terroristes du mois de janvier à Paris. Et comme nous le disions encore dès lundi, 6 mois plus tard, on avait envie de s'interroger sur l'efficacité de ces valeurs républicaines au sein de la société française, mais aussi sur la portée de leur universalité et sur l'existence peut-être de nouvelles valeurs capables de transcender les différences. Alors, existe-t-il encore des valeurs universelles? C'est donc la discussion d'aujourd'hui, Jean-Bernard Baume.
Oui. Avec donc Benoît Thuelin, Daniel Lechac, Ronnie Broman et Karima Deli, que je voudrais vous présenter tout de suite parce que c'est elle qui va prendre la parole en premier. Hier, avec Didier Lesky et Salah Mokran notamment, il a été question de la transmission politique entre les générations notamment. On s'est dit que peut-être que tout n'avait pas été fait pour assurer l'émergence d'une nouvelle génération en politique et d'une nouvelle pensée de la fraternité en politique, puisque c'était notre sujet. Eh bien, vous avez devant vous, mesdames, messieurs, l'exemple justement de quelqu'un qui incarne une nouvelle génération politique. Karima Deli, merci beaucoup d'être là. Vous avez grandi à Tourcoing, dans le nord de la France. Vous avez fait des études de sciences politiques. Vous êtes engagé très jeune en politique chez les Verts en 2006. Vous êtes devenu aussi très très vite secrétaire fédéral des Jeunes Verts en 2007. Et en 2009, à 30 ans, vous avez été élu député au Parlement européen sous l'étiquette Europe Écologie. Et vous défendez depuis une conception ouverte et populaire de l'écologie, c'est-à-dire vous refusez de distinguer d'un côté l'urgence environnementale, de l'autre la question sociale, et vous essayez en permanence d'inscrire votre engagement dans les façons de faire de votre génération, les nouvelles façons de faire de la politique qui sont celles de votre génération, avec notamment un certain goût pour les actions spectaculaires et le happening, un goût que vous avez cultivé dans de petits collectifs d'activistes comme Jeudi Noir ou Sauvons les Riches, et que vous avez continué à entretenir depuis que vous êtes député, puisque je crois vous avez notamment fait fondre une belle statue de glace au Parlement européen, histoire de protester contre quoi, Hervé ?
Contre, vous allez nous le dire,
Karima Deli. Contre le réchauffement
climatique. Contre le réchauffement climatique, voilà.
Karima Deli, merci beaucoup d'être là. Et vous avez donc la parole pour quelques minutes.
Merci beaucoup de cette invitation. Moi, je suis très contente parce que lorsqu'on est député européen, on a souvent la tête dans le guidon. Et donc, cette invitation, pour moi, ça me permet de prendre le temps de se poser et de réfléchir. Et quand un politique réfléchit, ça fait du bien. Ce débat sur l'universalisme pose pour moi, bien évidemment, plusieurs paradoxes. Tout d'abord, lorsqu'on parle d'universalisme des valeurs, ça présuppose qu'il existe une vérité qui est applicable à tous les êtres humains, partout sur la planète, en tout temps. Et je crois que c'est une fiction qui est absolument absolue, parce que c'est une fiction qui a été mise en œuvre par un monde occidental pour imposer un modèle au reste du monde, et surtout sous couvert d'un mot qui est un joli mot, c'est l'émancipation. Mais l'émancipation à quel prix ? Est-ce que c'est au prix, on l'a vu, hein, de guerre, de colonisation, etc. Donc, premier paradoxe. Le deuxième paradoxe, c'est que la plupart des textes de loi, la Déclaration des droits de l'homme, la Déclaration universelle des droits de l'homme, il y a des grandes valeurs qui émergent, la démocratie, la liberté, l'égalité, la fraternité, qui devraient être universelles. Et quand on regarde dans les faits, ça ne l'est pas. Et je vous donne un exemple très concret qui, moi, regarde le spectre au niveau européen. Moi, je suis très attachée à l'Europe. Et à l'Europe, il y a un adage et une devise qui est formidable. C'est « uni dans la diversité ». Or, ces derniers jours, vous lisez les journaux comme moi, et malheureusement, la crise grecque a montré dans les faits que c'est l'inverse qui s'est produit. C'est-à-dire qu'on est à tel point qu'aujourd'hui, les valeurs de l'Europe qui émanent ce projet européen, avec des valeurs que ce soit l'humanisme, la solidarité, ben, n'a jamais été aussi menacé, tout simplement parce qu'il est attaqué au cœur même de ses valeurs, c'est son fondement. Et je ne reviens pas sur, et là je regarde les autres intervenants, peut-être qu'ils en parleront, mais la question de la migration et des migrants, vous vous rendez compte qu'on est en 2015, et aujourd'hui la Méditerranée, c'est le plus grand cimetière à ciel ouvert. En 2015, qu'a fait l'Europe ? Où sont ses valeurs ? Et donc on voit bien qu'aujourd'hui, pour moi, l'universalisme inné et permanent, au fond, c'est un petit peu, pour moi, hein, une véritable... Vous êtes assis, donc je peux le dire, comme gros mot, mais c'est un peu une fumisterie. Pourquoi je dis ça ? Parce qu'en même temps, cela ne nous empêche pas à un moment donné, ou dans un contexte donné, de nous doter de principes communs à valeurs partagées. Et notre cher journaliste et présentateur m'a présenté. Mais c'est ça qui m'anime. À un moment donné, on doit trouver justement cette énergie, cette audace, réellement avoir du sang-froid. C'est ça pour moi le sens de l'engagement politique qui suppose une envie réelle de changer le monde. De changer le monde, ça veut dire quoi ? Ça veut dire de défendre un autre modèle de société qui soit plus soutenable, qui soit plus juste, mais surtout qui soit plus convivial, qui redonne justement goût à ce phénomène de changement. Mais ce qui m'anime surtout, c'est de dire aujourd'hui, nous sommes capables, collectivement et moralement, de décider de choses dont il faut le faire. Par exemple, on est tous d'accord qu'il faut dire il faut abolir l'esclavage. On est tous d'accord de dire c'est pas bien le travail des enfants. On est tous d'accord pour dire encore que les mutilations faites aux femmes, ce n'est pas bien. Et il faut se battre, il faut continuer. Et donc l'important aussi, quand on parle des valeurs, eh ben, c'est toujours de pouvoir discuter et de les remettre en cause, ces valeurs, aussi intangibles qu'elles soient, car c'est elles aussi qui vont faire notre histoire. Je vais prendre un exemple très concret. Hein. La famille, par exemple, aujourd'hui, ne revêt pas la même réalité qu'il y a quelques années. On parle du mariage pour tous, etc. On pourrait prendre sur plein de phénomènes. Et je pense que c'est aussi le cours de l'histoire qu'on est en train de décrire. Et justement, sur le sens de l'histoire, parce que ce que j'aime bien dans votre question, c'est le demain. La question du demain, elle est hyper importante. Aujourd'hui, vous le dites hein, dans votre titre, vous dites on est dans un monde multipolaire, si bien qu'il y a quelque chose qui nous concerne tous, qui nous parle tous, et c'est demain, mais c'est surtout aujourd'hui, c'est quelque chose qui est universel, c'est cette crise écologique. La crise écologique, elle est universelle. Alors, je sais que vous allez me dire, oh là là, la petite députée écolo, elle voudrait que l'écologie soit une valeur universelle, alors que les scores des écolos, c'est pas terrible. Mais je balais le débat, je ne suis pas là pour, en tant que politique. Mais je pense qu'on a un constat désormais, c'est que les dangers du monde ne sont plus les mêmes. Le vivant même est en danger sur la terre. On parle de dérèglement climatique, on parle d'accès aux terres agricoles, on parle d'air aujourd'hui qu'on aimerait non polluer, mais il est pollué. Et donc ça veut dire comment on va répondre à ces dangers présent, avec un nouveau caractère universel. Et donc, je pense que, à votre question, moi, je réponds, nous devons absolument travailler à définir à de nouvelles valeurs universelles pour sauver cette planète en danger. Alors, tout à l'heure, vous avez parlé d'écologie populaire. Alors, parce que souvent, on dit l'écologie, oh là là, ça concerne certaines personnes, pas d'autres. Alors, moi, j'entends parfois dire, l'écologie, c'est pour les bobos. Ce que je n'aime absolument pas, moi, je viens d'un milieu populaire. Et quand je regarde ce qui se passe, c'est que vraiment, la question du réchauffement climatique, on est à six mois. Hein. On a un rendez-vous avec l'humanité, c'est la COP21 Paris. Et je vous assure que les premières victimes, c'est toujours les plus vulnérables. Et lorsque, en 2009, le gouvernement des Maldives donne une conférence de presse sous l'eau, le gouvernement appelait à l'aide les pays riches pour l'aider, je me dis, on a un problème. La France qui continue à faire du nucléaire, alors que notre génération va avoir des déchets nucléaires pour 1 million d'années, c'est pas juste. Que le Canada est en train de faire des caisses de schiste, en train de, justement, piller les ressources de la planète, ce n'est pas normal. Donc, ces exemples montrent le potentiel universaliste que représente l'écologie. Alors c'est vrai que nous, les écologistes, on a tendance à dire il faut agir local, penser global. Et moi, je pense... personne ne peut dire aux Indiens de la Pachamama, ça fait 400 ans qu'ils disent « la terre est égale notre mère, réellement, il faut la protéger ». Et donc, c'est pas Al Gore, c'est ni Ségolène Royal, c'est ni Nicolas Hulot, etc., qui, depuis 400 ans, disent « la terre, c'est notre mère, il faut la protéger ». Et je termine parce qu'on me fait signe. Qu'est-ce qu'il faut faire? Moi, je pense qu'il est temps qu'on invente le siècle des communs. C'est quoi les siècles des communs? Ça veut dire qu'il faut penser et inventer les nouvelles solidarités en termes de partage, non plus de richesses comme dans les siècles passés, mais en termes de ressources. Il faut savoir les protéger, les mettre en commun, etc. La notion de commun, pour moi, il n'y a pas de propriétaire. Les acteurs publics, privés, etc., ça appartient à tout le monde. Et on trouve un système pour faire en sorte que tout le monde y a accès, dans le partage, dans l'accessibilité, dans la circulation. Je regarde mon collègue de l'Internet, je lui fais un clin d'œil parce que l'Internet va être aussi un moyen. Moi, quand je vois la Wikipédia, qui est l'encyclopédie accessible au plus grand nombre, c'est quand même incroyable ce qui est en train de se passer. Donc on voit bien que le commun, il peut être immatériel, comme l'Internet, etc., mais il peut être aussi matériel, les forêts, la nature, etc. Et moi, j'appelle, et je termine par là, j'aimerais qu'on parle de ça, c'est-à-dire les valeurs universelles de demain, ça va être réellement... C'est quel destin commun à l'humanité nous trouvons pour vivre ensemble et de manière conviviale. Merci beaucoup.
Merci Karim Adeli. Alors vous avez presque terminé votre intervention en faisant un clin d'œil sur votre droite, à votre camarade de l'Internet. Moi je vais m'adresser pour l'instant... à votre camarade qui est sur votre gauche, notre deuxième invité dont... une de nos invitées d'hier, la sociologue Colette Beck, qui nous parlait de protection sociale, me disait en évoquant son nom, voilà, pour moi, s'il y a un modèle d'intellectuel honnête, c'est vraiment lui, c'est Ronnie Broman. Ronnie Broman, bonjour. Ben oui, voilà, je vous le dis, je lui avais promis de vous transmettre ce compliment. Ronnie Broman, je vais faire les présentations un peu plus complètes, bien entendu. Vous êtes médecin. Vous avez eu un doctorat en médecine tropicale, santé publique et épidémiologie. C'est une activité qui vous a conduit à rejoindre les rangs de Médecins sans frontières, que vous avez présidé, en tout cas MSF France, pendant une douzaine d'années. Vous êtes toujours assez proche, je crois, de cette organisation. C'est peu étonnant, finalement, que vos destins se soient confondus, puisque MSF, comme vous, n'hésite pas à aller peut-être contre la pensée dominante et à mettre de la politique là où parfois on hésite à en mettre. En l'occurrence, dans le domaine de l'humanitaire. C'est un engagement et des idées qui sont les vôtres, qui vous ont conduit également à ne pas forcément suivre les rôles qui vous étaient assignés a priori. Je voudrais parler de vos origines. Vous êtes juif, vous êtes né à Jérusalem, mais ça ne vous empêche pas d'avoir un regard critique sur ce qui peut être, par exemple, la politique du gouvernement israélien. Vous en avez d'ailleurs fait un livre de dialogue avec Alain Finkielkraut, livre qui date d'il y a quelques années, qui s'appelle « La discorde ». Et puis, comme humanitaire, je le disais, vous avez pris la parole à plusieurs reprises, notamment pour vous opposer à des interventions qui étaient menées au nom de causes humanitaires, mais dont vous dénonciez les effets à venir désastreux. Et je pense, bien entendu, à l'intervention militaire de l'OTAN en Libye. Aujourd'hui, vous êtes professeur associé à Sciences Po. Vous y enseignez l'action humanitaire et peut-être d'ailleurs les valeurs au nom desquelles cette action est menée. Mais ces valeurs existent-elles? En tout cas, ces valeurs universelles existent-elles? C'est à vous de répondre.
Merci. Avec une présentation comme ça, je risque d'avoir du mal à être à la hauteur des enjeux. À Sciences Po, j'enseigne, ou plutôt j'enseignais, car je viens d'arrêter, j'enseignais les enjeux politiques de l'action humanitaire. Donc c'est plutôt les questions posées par l'humanitaire que les réponses que celui-ci apporte. La question des valeurs universelles m'a en effet longtemps taraudé, puisque en tant que médecin humanitaire, je me plaçais d'emblée dans un universel, à savoir celui de l'humanité. Mais ce n'était pas seulement cette situation contextuelle, c'était aussi l'action qui était conduite, qu'il était en fonction d'une certaine morale, d'une éthique assez imprécise, assez flottante, et à laquelle, parce que sans doute les hommes sont ainsi faits, qu'ils ont besoin de trouver des raisons à leur action, à laquelle donc je cherchais quelques fondements qui puissent être déclinables, explicables, échangeables, en tout lieu et forcément, d'une certaine manière, en tout temps. Et je ne les ai pas trouvés. N'étant pas religieux, j'avais pas une divinité à laquelle me référer. Alors, dans ce ciel vide, je ne trouvais absolument aucune accroche pour cela. Jusqu'à ce que je tombe un petit peu par hasard lors de lectures, de circonstances ou de d'opportunités, je tombe sur cette réflexion de Rousseau, qui, je trouve, est extrêmement éclairante et qui a des prolongements tout à fait actuels. Ce qui constitue l'homme, dit Rousseau dans cette phrase que je trouve très profonde, c'est un sentiment de vulnérabilité partagée. Et pour moi, d'un seul coup, un rideau se levait, quelque chose se passait. Au fond, oui, il y a une humanité, une, qui éprouve d'une manière globale, quel que soit l'endroit, ce sentiment de finitude, de vulnérabilité, et qui est capable de reconnaître en d'autres ce même sentiment. Ça me plaisait beaucoup parce que ça nous sortait de cet universalisme que j'ai fini par considérer comme idéologique. Et en creusant l'histoire, je n'ai pas été déçu de ce point de vue-là. Après tout, c'est bien l'universalisme qui, en tout cas en France, c'est sans doute moins vrai dans d'autres époques impériales, enfin pour d'autres régimes impériaux, mais en France ça a bien été le cas, c'est cet universalisme qui a servi de colonne vertébrale, d'instance de légitimation ultime à la conquête et à la domination coloniale. Et c'est ce même universalisme que Tocqueville décrit comme étant au fond de la destruction de la population indienne en Amérique. L'universalisme, nous dit Tocqueville, broie par essence même, broie tout ce qui lui résiste. Donc qu'il s'agisse de cette forme-là, la conquête de continents et la destruction des populations qui l'habitent, qu'il s'agisse de la forme plus classiquement coloniale, la civilisation et les devoirs qu'éprouvent tous ceux qui s'en estiment les tenants à l'égard de ceux qui restent plongés dans l'obscurité des temps barbares, donc le devoir de civilisation façon Jules Ferry, voilà ce que sont les principaux aspects d'un universalisme des valeurs dans lequel, évidemment, je ne pouvais pas me reconnaître. Alors je termine, pour ne pas occuper trop de temps, en disant que s'il n'existe pas, à mon sens, de valeur morale, d'ailleurs, chaque fois que j'ai été confronté à des gens qui brandissaient cette notion de valeur universelle, d'une morale valable en tout temps et en tout lieu, je leur demandais, lorsque je le pouvais, de préciser quelles étaient ces valeurs morales qui était universel. Je ne dis pas universalisable, je ne dis pas des valeurs que l'on pourrait souhaiter voir s'étendre dans le monde entier, mais des valeurs qui sont universelles, c'est-à-dire constatées comme telles. Et là, j'étais bien obligé de voir que il y avait un blanc, que on ne pouvait pas embrayer sur les quelques notions fondamentales, fondamentales qui pouvait donc constituer une réponse. En revanche, et là je relis à ce que je disais au sujet de Rousseau, j'ai trouvé dans un auteur dont je recommande la lecture parce qu'il me semble injustement méconnu en France, bien qu'il soit édité et vendu, c'est un auteur hollando-américain qui s'appelle Frans de Waal, un éthologue qui peut-être d'ailleurs fait un pont entre l'écologie et l'humanité, qui, à partir de l'étude des primates supérieurs, constate qu'il y a quelque chose qu'il appelle des sentiments moraux, ce qui se distingue de la morale, car ils ne sont que des sentiments, c'est-à-dire ils ne font pas l'objet d'un discours, d'une élaboration intellectuelle, mais ils sont éprouvés en tant que tels. Et les deux principaux que j'isole sont ce qu'il appelle, je reprends ces termes, la compassion cognitive, qui se rattache un peu à la ce qu'on a appelé dans la philosophie classique ancienne la conscience élargie, c'est-à-dire la capacité de voir le monde au travers des yeux d'un autre, ce qui n'est pas en soi une morale. Car c'est aussi comme cela qu'on peut concevoir la torture. C'est en imaginant ce qu'éprouve quelqu'un qui est torturé que l'on peut attribuer à la torture quelques mérites, en tout cas qu'on lui donne sa capacité d'existence. Donc ce sentiment-là n'est qu'un sentiment moral et non pas une morale, il faut bien les distinguer. Et l'autre sentiment moral, à part la... cette empathie, cette notion d'empathie cognitive, c'est ce qu'il appelle l'aversion à l'iniquité, à savoir le caractère insupportable d'être puni pour quelque chose que l'on n'a pas fait, qui est au tréfonds, disons, d'un sentiment de justice. Mais avec ça, on ne fait pas des valeurs. On constitue une société humaine unie par de tels sentiments éprouvés profondément, mais pour dire deux mots sur la justice à partir de cette aversion pour l'iniquité, si toutes les sociétés produisent des formes de justice, chacune des sociétés considérées va produire des formes de justice distinctes. Et elles ne sont pas nécessairement compatibles. Donc s'il y a quelque chose à dire sur l'universalité de la morale, c'est que toutes les sociétés humaines produisent une morale, mais qu'il s'agit de morales distinctes. Et donc, je termine avec un autre auteur qui m'a bien influencé, enfin chez qui j'ai trouvé une nourriture intellectuelle très profonde là-dessus, qui est Michael Walzer, un philosophe canadien, qui, dans son ouvrage sur la morale, morale minimum, morale maximum, parle de cette notion très profonde, je pense, cette notion duelle très profonde, selon laquelle toutes les sociétés humaines sont universelles en ce qu'elles sont humaines et sont singulières en ce qu'elles sont des sociétés. Et il me semble que penser des valeurs morales, penser les rapports entre les hommes et entre les sociétés en dehors de cette dualité, nous amène nécessairement à renouer avec ce que j'appellerais une forme d'impérialisme moral destructeur, dont Hervé Gardette, par exemple, nous a rappelé l'une des dernières manifestations, à savoir le désastre de la guerre en Libye, menée sous le drapeau de la morale et qui a conduit aux résultats que l'on voit aujourd'hui. Voilà, je vous remercie.
Alors Daniel Lechat, je me tourne vers vous maintenant, vous allez avoir la parole. Comment vous présentez, maintenant qu'on a dit que le modèle de l'intellectuel honnête, c'était Ronnie Broman, ça peut pas être facile. Mais vous êtes, à votre manière aussi, une intellectuelle très honnête et une grande figure de la scène intellectuelle française, une figure à la fois militante et savante. Côté science, vous êtes une grande juriste, hein, des générations d'étudiants ont eu l'occasion de le vérifier, notamment à l'Université de Nanterre. Vous êtes spécialisée dans le domaine des droits de l'homme, dans le domaine du droit des étrangers aussi, et du reste, vous avez signé un livre qui reste la référence en la matière, qui s'intitule « Étrangers, de quel droit ?». Ça, c'est pour le côté savant. Et pour ce qui est du côté engagement, eh bien, Daniel Lechat, qui est membre de la direction de la Ligue des droits de l'homme, elle a aussi été pendant des années la présidente du GISTI, groupe d'information et de soutien des immigrés. Et en réalité, ce qui fait votre force, Daniel Lechat, ce qui vous distingue, c'est votre capacité, justement, et paradoxalement, à ne pas faire la distinction entre la science d'un côté et l'engagement de l'autre, ou en tout cas, à essayer de conjuguer en permanence les deux, en faisant confiance toujours à la force du droit, pour développer d'un seul et même mouvement une action, mais aussi une réflexion autour de cette figure qui incarne pour vous, par excellence, la figure, justement, de l'universel, cette figure qu'on appelle tout simplement l'étranger. Daniel Lechat, vous avez la parole.
Merci. Ma question, la question à laquelle on m'a aussi demandé de répondre, c'est est-ce que les droits de l'homme sont universels et quel rapport entre les valeurs et les droits de l'homme? Je crois que c'est assez simple. Aujourd'hui, dans le monde contemporain, les valeurs sont traduites dans le droit. Au risque, bien entendu, comme c'est par la médiation du politique, forcément, qu'elles ne deviennent, ces valeurs et ces droits, un enjeu du politique. Il y a des risques ici de manipulation et de limites qui sont évidents, dont je vais parler. Donc, les revendications qui viennent, si je peux dire, de la société civile, de la base, sont aujourd'hui le plus souvent formulées sur le terrain du droit. Donc, il faut qu'elles soient retranscrites en droit, donc le politique doit intervenir. C'est la même chose au niveau international, avec tous les problèmes que ça peut poser et qui renvoient à la question donc de l'universalité des droits de l'homme. L'universalité des droits de l'homme, elle allait de soi pour les révolutionnaires. Elle allait de soi puisque les droits proclamés étaient des droits inhérents à la nature humaine. Donc ces droits étaient nécessairement universels, ils valaient pour tous et pas seulement pour les Français de 1789. Plus tard, en 1948, la Déclaration universelle des droits de l'homme, eh bien, on dit que René Cassin, c'est lui qui a insisté pour qu'elle s'appelle universelle et pas simplement internationale, pour bien mettre l'accent sur le fait qu'elle valait pour tous les êtres humains, sans discrimination, et qu'elle valait au-delà même de l'engagement des États. C'est-à-dire que les individus avaient des droits qui étaient indépendants du fait qu'ils appartenaient à tel ou tel État. Tel était, en tout cas, au moins, le projet. La déclaration en elle-même n'avait pas valeur contraignante. C'était une espèce d'engagement moral des États qui l'ont voté à l'époque à la quasi-unanimité. Mais les États, à l'époque, n'étaient pas aussi nombreux qu'aujourd'hui. C'était avant la décolonisation, il est vrai. Et cette universalité, donc, elle se fondait sur cette idée de dignité humaine. On était au sortir de la Seconde Guerre mondiale, avec tout ce qui s'était passé, et l'on voulait donc que les actes de barbarie qui révoltent la conscience de l'humanité, c'est ce qui est marqué dans la déclaration, ne se reproduisent pas. Donc la dignité, on pensait que c'était une valeur universelle qui pouvait fonder l'universalité des droits de l'homme. À partir de là, il y a eu tout un courant au niveau de l'ONU où toute une série de grandes conventions ont été adoptées et qui, celles-là, sont contraignantes pour les États qui les ont ratifiées. Et en fait, la quasi-totalité des États de la planète a ratifié toutes les grandes conventions, les pactes sur le droit civil et politique, sur les droits économiques et sociaux, conventions contre la torture, conventions contre les discriminations faites aux femmes, conventions sur les réfugiés, etc. Et donc, on voit bien ici comment même cette internationalisation exprime l'idée que les droits de l'homme valent pour tous. Mais qu'est-ce que veut dire « valent pour tous » en réalité? Est-ce que ça veut dire, première interprétation, qu'ils sont universellement valables parce que tout le monde adhère aux valeurs qu'ils expriment? Certains font observer que les droits de l'homme sont une invention de l'Occident, ce qui est exact. Comment justifier leur prétention à valoir pour tous, tout en reconnaissant qu'ils sont marqués par l'histoire et la culture occidentale? Et de fait, un certain nombre de contestations de l'universalité des droits de l'homme sont venues. Il y a une contestation qu'on peut dire en gros tiers-mondiste, pour aller vite, qui disait, elle a un peu disparu, cette contestation, que cette prétention à l'universalité est une expression de l'ethnocentrisme occidental, voire une forme de néocolonialisme idéologique. Contestation aussi de la part des pays musulmans, qui estiment que les droits de l'homme doivent s'interpréter au regard de la loi religieuse et que leur universalité ne peut pas servir de prétexte pour discréditer les principes de la charia islamique. Et puis une contestation qu'on appelle parfois asiatiste, bien qu'elle regroupe des pays aussi différents que la Chine ou d'autres pays confucianistes, et qui eux mettent plutôt l'accent sur l'individualisme de cette conception des droits de l'homme par rapport à des valeurs qui sont plus hiérarchiques et plus collectives de ces civilisations. Malgré cela, aucun pays ne conteste en soi les conventions internationales qui ont été adoptées. Aucun n'a décidé de ne pas y adhérer ou de les contester. Donc, il y a quelque chose ici qui est une espèce d'adhésion de forme à l'universalité de ces droits de l'homme, et en même temps, on voit bien que il y a des réticences et des contestations qui continuent à s'exprimer. Deuxième interprétation, à laquelle il a déjà été fait référence tout à l'heure, est-ce que quand on dit que les droits de l'homme valent pour tous, on veut dire qu'ils obligent l'ensemble des États qui ont effectivement ratifié ces conventions? Et là, on voit comment il y a une grande distance entre ce qui a été dit, ce qui a été ratifié, cette idée que les conventions obligent ceux qui les ont passées, et la réalité. On voit bien comment, quotidiennement, les droits de l'homme sont bafoués, et on voit bien surtout comment la communauté internationale qui est responsable de leur respect n'arrive pas à condamner et à faire cesser ces violations. on voit aussi, autre élément important, comment lorsqu'il s'agit du droit international pénal, c'est-à-dire ce droit qui prétend aujourd'hui condamner les personnes qui se sont rendues coupables de crimes contre l'humanité ou de crimes de guerre, comment en fait ces mécanismes-là, quand vous regardez contre qui ils sont mis en œuvre, eh bien vous constatez que c'est toujours contre des pays africains ou des pays en tout cas subordonnés et jamais contre les pays les plus puissants. Et ça aussi, c'est quelque chose qui peut faire douter de la réalité des droits de l'homme. Et puis enfin, puisqu'on m'a invité à y faire allusion, et c'est bien sûr la question qui, moi, me préoccupe par excellence, c'est que même dans les pays démocratiques, même dans les pays où on ne constate pas de violations massives des droits de l'homme, eh bien, la condition des étrangers dément l'universalité des droits de l'homme. Elle la dément subrepticement. Parce que, de fait, depuis des années, depuis une trentaine d'années, et c'est drôle parce que les deux dates coïncident en quelque sorte, on a accepté l'idée de l'universalité des droits de l'homme qui valent aussi pour les étrangers. Et de fait, les étrangers se sont vus reconnaître des droits qu'ils n'avaient pas pendant très longtemps. Et en même temps, les politiques de fermeture des frontières qui valent en Europe, mais qui valent aussi pour les États-Unis, qui valent aussi pour l'Australie, qui a inventé quand même des choses assez extraordinaires, l'Australie, pour tenir à distance les migrants, eh bien ces politiques de maintien à distance des migrants, nous voyons aujourd'hui à quel point elles sont attentatoires à des droits aussi fondamentaux que le droit d'asile, le droit de ne pas être soumis à la torture et à des traitements inhumains ou dégradants, et également, bien entendu, le droit à la vie, puisque, comme on y a fait allusion tout à l'heure, et je crois que c'est à juste titre, eh bien, on constate qu'aujourd'hui, les naufrages et les violations graves des droits de l'homme en la personne des migrants sont quotidiennement bafouées. Et bien entendu, ça ne remet pas théoriquement en cause la valeur universelle des droits de l'homme, mais quand même, lorsque quotidiennement ces droits sont bafoués dans la réalité, comment ne pas laisser entendre que cette universalité des droits de l'homme est finalement une mystification.
Merci beaucoup, Daniel Lochak. Allez, nous passons à présent à notre quatrième invité, qui est peut-être l'invité le plus inattendu sur cette question des valeurs universelles. On pourrait se demander ce que fait le président du Conseil national du numérique sur ce sujet-là, puisque vous présidez le Conseil national du numérique, Benoît Thiolin. Bonjour. Alors, c'est dit en fait que le monde numérique, en fait, ne pouvait pas être absent de ce débat. Alors, c'est une banalité de dire qu'Internet abolit les frontières, qui bouleverse aussi nos représentations, c'est-à-dire à la fois les représentations qu'on a du monde extérieur, mais aussi les représentations que l'on donne de nous à ce monde extérieur. Et donc, nous intéresser d'avoir votre point de vue, finalement, sur la façon à la fois dont le monde numérique diffuse ses valeurs et peut-être aussi crée de nouvelles valeurs. En tout cas, c'est quelque chose qui vous, semble-t-il, vous intéresse, puisque sur la présentation qui est faite de vous sur le site du CNM, j'ai notamment noté que vous étiez convaincu qu'Internet est à l'origine d'un changement profond de civilisation. Alors, vous présidez donc cet organisme depuis 2013 qui donne des préconisations au gouvernement en matière de numérique. Vous êtes également dans le domaine de l'enseignement puisque vous dirigez à Sciences Po le Master Digital Humanities, qu'on traduit par Humanité numérique. C'est l'idée de diffuser le plus largement possible le savoir. Alors, quel savoir? Ça sera peut-être une des questions justement qui sera abordée avec vous. Vous êtes également engagé dans la vie des idées puisque vous faites partie, je crois, du conseil d'administration du think tank Terra Nova. Et puis, on vous doit, c'était en 2007, pendant la campagne présidentielle, le site Désir d'avenir de Ségolène Royal. Voilà, c'était à l'époque où on parlait beaucoup, enfin, on continue d'ailleurs à en parler beaucoup, de démocratie participative. Ça lui a pas réussi autant qu'elle le souhaitait, puisqu'elle n'a pas été élue. Mais enfin, en tout cas, vous, ça vous a réussi, parce que ça a aussi permis de lancer l'entreprise que vous dirigez et que vous avez créée.
Malgré la NetSquad et les désirs d'avenir.
Elle a essayé, en fait, de sauver un petit peu.
On a été tellement gentils avec Sabine Cardenon précédente.
Elle a gagné les primaires, je pense qu'elle aurait eu du mal à les gagner sans Internet.
Sans doute.
Et c'est pas du tout pour me rapporter à moi, mais c'est juste pour dire que je pense que ça a été un début, au fond, de bouleversement de l'équilibre de la classe politique française, comme le non au traité constitutionnel européen un an avant avait été la première manifestation de l'émergence du web dans le champ des campagnes politiques avec, je crois, un rôle très très fort de la part d'Internet à l'époque dans la victoire du non.
Alors justement,
en tout cas,
vous
ça fait partie de mes convictions fortes.
Eh ben alors justement, ces convictions, vous allez pouvoir nous en faire part de manière un peu plus longue, puisque vous allez nous expliquer peut-être en quoi le bouleversement qui est celui engendré par le monde numérique peut avoir un impact sur, comme je le disais, la diffusion des valeurs. Benoît Thiolin.
Merci de votre invitation. Alors, je me retrouve beaucoup dans ce qui a été dit avant, parce que je pense que quand on aborde ces questions au fond de valeurs universelles, surtout quand on est français, on ne peut pas avoir un rapport ambivalent, assez dialectique au fond, qui fait que vous parliez des droits de l'homme tout à l'heure. Les Français, lorsqu'ils font leur déclaration des droits, la font pour le monde. Avec quelque chose d'assez beau quand même, que je voudrais rappeler, et qui fait que je pense qu'il y a quelque chose dans la culture française qui se veut un peu universel, et qui a quelque chose d'assez grand et d'assez beau, mais qui en même temps a été la légitimation de choses absolument terribles. Et donc je pense qu'on a du mal au fond à sortir de cette dialectique-là, et au fond, moi je la retrouve dans le numérique. Je pense qu'on est face au fond à deux grandes transitions aujourd'hui, c'est pour ça que je me retrouve énormément dans ce que disait Karima tout à l'heure, qui sont d'un côté la transition écologique et de l'autre la transition numérique. Et c'est pas pour rien que je parle des deux en même temps, parce que je pense qu'en réalité, elles doivent s'articuler. Probablement une des clés de l'évolution du monde demain, puisque c'est la question qui nous est posée, et probablement réside dans cette articulation, au fond dans le bouleversement profond que l'humanité a à avoir dans le champ de la nature, puisque c'est ça la transition écologique. Et je vous dirais que le changement profond de civilisation qu'on est en train de vivre avec la transition numérique est en train de bouleverser le rapport de l'humanité à la culture, au savoir et à la connaissance. Et je pense qu'effectivement, sur la question des communs, par exemple, l'articulation entre ces deux transitions est probablement la question la plus fondamentale qui est posée à l'humanité aujourd'hui. Alors quand je dis je suis convaincu, effectivement, depuis assez jeune, moi je suis tombé dans l'informatique quand j'étais tout petit, et je suis convaincu effectivement que ça transforme le monde. Et j'ai un peu structuré depuis mes réflexions là-dessus. J'ai la chance d'ailleurs au Conseil national numérique de travailler avec un grand philosophe qui s'appelle Bernard Stiegler, qui lui dit même que c'est beaucoup plus qu'un changement de civilisation. Il dit que l'émergence du numérique en réalité est probablement n'a d'équivalent que le passage de la culture orale à la culture écrite dans l'humanité. Alors sans remonter aussi loin, et pour nous ramener aux questions universelles, moi, je préfère quand même trouver un équivalent un peu plus proche de nous, qui nous est un peu plus parlant, puis qu'on connaît quand même un peu mieux, qui est un peu plus documenté, qui est l'invention de l'imprimerie. Je crois que ce que l'on vit aujourd'hui, la révolution numérique, n'a d'équivalent récent, si je puis dire, que l'invention de l'imprimerie, avec toutes les conséquences qu'elle a pu avoir à ce moment-là. L'imprimerie a changé profondément notre rapport au savoir, à la culture, à la connaissance, puisqu'il a permis, il a commencé à permettre une diffusion massive des contenus. Et ce qui s'est passé très rapidement à l'époque, bah ça a été en fait, il y a eu deux grandes conséquences de l'invention de l'imprimerie directe. Ça a été la renaissance d'une part, et ça a été la réforme d'autre part. Et ces deux choses-là ont contribué d'ailleurs fortement à pousser des valeurs universelles avec ce que Bruno Latour, qui est un autre grand philosophe que j'apprécie énormément, qui est d'ailleurs un des rares grands philosophes qui travaille à la fois sur les questions d'écologie et sur les questions numériques, que je vous invite à lire, que vous avez souvent invité à France Culture, et qui parle de front de modernisation. C'est à ce moment-là, au fond, l'Europe invente l'imprimerie, en tout cas elle la donne au monde, elle la diffuse massivement, et elle va lancer son front de modernisation qui va mettre le feu à la planète, comme dit Bruno Latour, avec toutes les conséquences absolument terribles qu'on a pu tous constater, que ce soit en termes d'extinction de civilisation, que ce soit en termes de colonisation, ou que ce soit en termes de dettes sur la biosphère considérables qui font qu'aujourd'hui, on est face au mur de la dette écologique. Alors, vous allez me dire, où est le numérique dans tout ça? Ben, la transformation numérique, la révolution numérique qu'on est en train de vivre, c'est la renaissance, la réforme, ses conséquences politiques qu'ont été les révolutions anglaise, américaine et française, plus la révolution industrielle, tout ça sur deux générations. Donc quand je vous dis que c'est un changement de civilisation et qu'il est violent et qu'il est brutal, il est absolument brutal, puisqu'on vit ce que nos générations présentes ont vécu sur 4 à 5 siècles, probablement en 2 ou 3 générations. Les conséquences vont être absolument majeures. Alors, du coup, je ne peux pas ne pas faire un lien sur les questions universelles, parce que les problèmes sont devenus universels, comme tu le disais tout à l'heure, Karima. La question écologique nous oblige en réalité à penser universel comme jamais, et pas de manière abstraite, comme peut-être trop souvent les révolutionnaires ou les philosophes français l'ont fait, en pensant à des droits très formels. J'aime beaucoup la phrase de Badinter, qui nous ramène un peu sur terre, sur la déclaration des droits de l'homme et des citoyens. Il dit « La France n'est pas le pays des droits de l'homme. La France est le pays de la déclaration des droits de l'homme. » Et c'est à la fois très amusant, mais en même temps c'est très profond. Et je pense que ça résume assez bien, c'est-à-dire que la France aime penser ces questions-là sur un mode très universel, mais en même temps de manière très très formelle. C'est pas du tout concret. Ou ça l'est en tout cas pas suffisamment. Alors qu'est-ce qu'il y a d'intéressant dans le numérique dans tout ça? Bien, je crois que le numérique aujourd'hui, il outille de manière extrêmement concrète. Je vous prends un exemple. La liberté d'expression. La liberté d'expression était un droit en réalité, si vous l'analysez bien, qui était très théorique. Même depuis la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Très théorique. Faisons donc la démonstration, parce que ce qui est intéressant dans le numérique, c'est que c'est une démonstration de faisabilité, je crois, le numérique. Comment est-ce que vous pouviez vous exprimer publiquement, facilement, jusqu'en 1995, au moment où Internet devient grand public? Vous aviez deux manières essentielles. Vous en aviez trois, en fait. Vous pouviez aller à Hyde Park sur un petit carton, et puis haranguer la foule. Vous pouviez le faire aussi à Montpellier, mais... la réalité, c'est que vous n'alliez pas toucher grand monde. Donc les deux vrais moyens de pouvoir diffuser fortement votre parole de manière publique, c'était de passer par des médias ou par des livres. Mais c'est-à-dire qu'en fait, c'est un droit intermédiaire. Ce qui veut dire qu'il n'est pas donné à tout le monde. La réalité, c'est qui écrit un livre et qui a accès aux médias. Une infime minorité de la population. Donc, d'emblée, on pose un droit théorique. Évidemment, je peux m'engueuler avec mon voisin, discuter dans la rue, etc. Mais la réalité pratique, elle était très limitée. Depuis 1995, et je ne dis pas que ça n'a que des bonnes conséquences, loin de là, mais il faut quand même en avoir conscience. Depuis 1995, et aujourd'hui si on en fait le bilan, chaque personne qui est connectée sur Internet a potentiellement la possibilité de s'exprimer auprès de 3 milliards d'individus, c'est-à-dire l'humanité connectée. Je ne dis pas que c'est pour le meilleur à chaque fois, c'est parfois pour le pire. Mais en tout cas, on ne peut pas ne pas réfléchir à l'évolution du monde de demain sans avoir ça en tête. Et le fait que du coup, et c'est pour ça que c'est une de mes obsessions, on n'enseigne pas suffisamment la responsabilité et le fait de savoir comment est-ce qu'on gère un tel nouveau pouvoir. Parce que, au fond, derrière tout ça, ce qui est intéressant dans la révolution numérique, c'est qu'elle distribue de manière très différente les pouvoirs. Là, je vous parlais du pouvoir médiatique, la liberté d'expression, comment Internet l'outille de manière absolument prodigieuse. Et encore une fois, on pourrait revenir dessus avec beaucoup d'ambiguïté, beaucoup d'ambivalence. Mais on pourrait prendre plein d'autres exemples. J'ai effectivement eu la chance de travailler à un moment donné sur des questions de démocratie participative et je m'y intéresse toujours fortement. Vous avez aujourd'hui les moyens de pouvoir, je ne dis pas qu'ils sont parfaits, mais vous avez aujourd'hui les moyens de pouvoir organiser des débats, de pouvoir outiller le débat public à des niveaux qui n'existaient absolument pas il y a encore 5 ou 10 ans. Et on n'est qu'au tout début. C'est-à-dire qu'en réalité... Et c'est pas rien le débat public. Je veux dire, derrière, il y a quand même la question démocratique. Ce que je veux dire par là, c'est que derrière ces questions-là, il y a aussi, en réalité, le fait de revisiter aussi les fondements, on va dire pratiques, de comment est-ce qu'on fait démocratie, comment on organise un débat public. Et très honnêtement, je crois que ça va être probablement dans les années qui viennent un énorme débat qui va monter, parce que je ne crois pas que la démocratie représentative soit l'horizon indépassable de notre temps. Je pense que quand on a inventé la démocratie, c'était l'époque du cheval et de la plume d'oie, et que les mécaniques qui ont été inventées à cette époque-là, qui sont absolument passionnantes, mais qui sont quand même des mécaniques de délégation de pouvoir, à un moment donné, on a d'autres moyens de pouvoir le faire, vont certainement amender fortement tout ça. Et donc, voilà, je pourrais multiplier les exemples, puisque cette distribution des pouvoirs n'a pas de limite. Le financement participatif, qui peut paraître anecdotique aujourd'hui, va désintermédier et latéraliser le financement de l'économie. C'est-à-dire qu'en gros, si vous voulez, dans 20 ou 30 ans, je ne dis pas, je ne fais pas de prospective, c'est très compliqué. Mais ce que je veux dire par là, c'est que le système bancaire, le financement de l'économie, la manière dont les gens vont constituer des entreprises sera profondément démocratisé dans un sens où ça va permettre aux gens de pouvoir s'entraider de manière absolument colossale. Voilà ce que je pouvais dire un peu en introduction. Et juste pour conclure sur l'histoire d'imprimerie, pour vous montrer que c'est difficile de faire de prospective, mais que les problèmes sont bien universels, je voudrais juste revenir sur, à l'époque, au Vatican, ils ont réfléchi, ils se disaient, maintenant qu'on a inventé l'imprimerie, il y a des gens qui ont réfléchi et qui se disaient, quelles vont être les conséquences? Et les prospectivistes de l'époque se sont dit, il y aura deux grandes conséquences majeures à l'invention de l'imprimerie. La première, ce sera que le latin va devenir la langue universelle puisqu'on va imprimer la Bible en latin et que tout le monde va pouvoir la lire. Et la deuxième conséquence, c'est qu'imprimant la Bible en latin et la diffusant dans le monde entier, l'Église catholique va donc vraiment être catholique, c'est-à-dire universelle. Voilà. La réalité, évidemment, c'est qu'on s'est mis à parler les langues nationales et qu'il y a eu, quelques années après, la réforme. Comme quoi, quand on fait de la prospective, il faut être modeste.
Merci Benoît Thuelin. C'est très intéressant. Vous avez un peu dépassé votre temps. Comme quoi, il y a au moins une continuité entre l'époque de l'imprimerie et l'époque d'Internet. C'est-à-dire que quand on conclut son topo, on dit toujours voilà, si vous me permettez de conclure, puis on prend 5 minutes de plus. C'est bien qu'il y ait une continuité de tradition entre le monde de l'imprimerie et le nôtre. Alors c'est intéressant parce que en vous écoutant les uns les autres, là, il y a quelque chose que je trouve qui a émergé comme une forme de fragilité de l'universel. Hein. Daniel Lechat a dit voilà, on dit finalement beaucoup de gens maintenant affirment que l'universel, les déclarations des droits de l'homme, c'est pas du tout universel, c'est quelque chose d'occidental. Benoît Thuelin parlait d'une espèce d'ambiguïté du net et du numérique, pour le pire et pour le meilleur. Karim Adeli a parlé de potentialité universaliste, donc aucune assurance à une potentialité universaliste de l'écologie. Et puis Ronnie Bourman a parlé de ce concept de vulnérabilité. Et là, il y a quelque chose de très fort, à mon sens, comme fil rouge déjà qu'on peut repérer pour ce débat, parce que effectivement, pendant très longtemps, l'universel, et on l'a rappelé tout à l'heure, était, où un certain universalisme était ancré dans une assurance très très forte que des gens savaient où était le bien et étaient appelés à le diffuser. Et aujourd'hui, il y a toute une conception d'universalisme qui se développe et qui est déjà mise en acte là par vous, qui est que l'universalisme serait plus du tout une certitude, mais serait plutôt une expérience, quelque chose qui serait construit avec à l'horizon justement l'idée que la démocratie et les valeurs sont quelque chose qui doit être en permanence reconquise, comme dans un laboratoire, et comme une expérience qu'on passe son temps à remettre sur le métier. Alors, de ce point de vue, d'un universalisme vulnérable et qui avance à tâtons, Ronnie Bourman, est-ce que vous avez déjà repéré des valeurs ou des choses qui, à votre sens, vous avez commencé à y répondre tout à l'heure, eh bien, installent comme un renouveau de l'universalisme sur ces bases nouvelles et fragiles?
Oui, d'une certaine manière, mais avec les réserve que je disais dans mon intervention liminaire. Prenons les révolutions arabes. Elles sont la manifestation collective d'un intolérable, celui d'un pouvoir dictatorial qui se caractérise à la fois par la corruption et l'ambition dynastique. Il me semble que c'est l'alliance des deux, c'est-à-dire ce sentiment d'injustice que chacun éprouve à voir des dirigeants se vautrer dans un luxe insolent, et qui plus est, passer le relais à leurs enfants, à leurs cousins, enfin, en tout cas, organiser la succession de ce pouvoir prédateur. Donc ce rejet-là, je crois qu'il a été partagé par tout le monde. Chacun, d'une certaine manière, pouvait défiler avec les manifestants du Caire, de Téhéran, de Tunis, et bien d'autres. D'ailleurs, dans les années 90, c'était aussi, on en a perdu un peu le souvenir, mais la grande époque des conférences nationales en Afrique, avec aussi des mobilisations politiques extrêmement importantes. Tout ça, évidemment, fluctue dans l'histoire, mais est appelé, je pense, à des développements importants. Cela étant, c'est là que je reviens sur ces réserves, le fait de se reconnaître dans ce soulèvement contre des pouvoirs prédateurs ne dit rien sur ce que l'on a envie d'installer au pouvoir, ne dit rien sur la manière dont on entend coexister avec ses voisins, organiser les rapports de sexe, les rapports familiaux, organiser le travail et la protection de ceux qui sont les plus faibles dans les rapports sociaux.
Oui, la protestation, si on veut ajouter un élément polémique, beaucoup de gens soulignent ou ont l'air d'affirmer que ces printemps arabes ont mené pour certains à des impasses et que l'État islamique s'est développé sur les ruines ou la désespérance de ces printemps arabes. Or, l'État islamique développe, lui, un universalisme qui n'a rien de fragile. Un universalisme très agressif qui considère que, effectivement, lui, ses valeurs doivent rayonner partout et en tout temps, comme vous le disiez tout à l'heure. Donc, de fait, il y a un universalisme très agressif et pas du tout vulnérable qui a pris la suite de ces printemps arabes qui, eux, tâtonnaient et avançaient.
Si je peux encore prendre 2 minutes, je suis très content que vous ayez cité cet exemple parce que, effectivement, il revendique un universalisme qui, d'un seul coup, nous renvoie aux limites de cet universalisme. Ah ben voilà un universalisme dont personne ne veut, qu'on rejette de tout notre être, par opposition à notre bon universalisme, qui a jusqu'à présent fait preuve d'un pouvoir destructeur bien plus important que celui de d'État islamique. C'est pas du tout un plaidoyer pour l'État islamique, hein, j'ai aucune sympathie pour ce pouvoir-là, mais après tout, son universalisme vaut bien le nôtre dans sa négativité. Mais ce que je voudrais aussi ajouter, c'est que, à mon avis, les printemps arabes et les révolutions arabes n'ont pas du tout accouché d'État islamique. Ce qui a accouché de l'État islamique, ce sont les interventions internationales destructrices qui ont eu lieu successivement en Afghanistan. N'oublions pas les soviétiques quand on parle d'intervention internationale. Il n'y a pas que les occidentaux libéraux. L'intervention soviétique en Afghanistan, c'est 1 million de morts, 10 millions de déplacés et de réfugiés, et à la clé les talibans, dont la radicalité a prospéré sur les ruines de cette intervention, de même que État islamique, autre variante de cette radicalité, a prospéré sur les ruines de l'Irak, envahi par les États-Unis au nom de la démocratie et du droit de protester contre ce pouvoir. Donc imputer aux révolutions arabes État islamique, c'est, je trouve, faire preuve d'un singulier rétrécissement du champ visuel. Au contraire, ouvrons-le et voyons ce qu'ont été les dégâts de ces interventions menées au nom d'un bien collectif, d'un intérêt général et avec les conséquences que l'on a vues.
Daniel Lochak, avec... Avec ce monde de plus en plus ouvert dans lequel nous vivons et qui nous fait constater, bah voilà, comme ça vient d'être dit, que les valeurs universelles ne sont pas forcément des valeurs humanistes. D'abord qu'elles ne sont pas forcément universelles, mais enfin en tout cas qu'elles peuvent être voilà présentées comme telles. Est-ce que vous adhérez à l'idée que, puisque ça faisait aussi un petit peu partie de votre démonstration, que ces valeurs universelles, elles ont une forme de souplesse et de plasticité et que certaines méritent peut-être d'être abandonnées au profit de nouvelles?
Alors je voudrais surtout, dans le prolongement de ce que vous dites et de ce qu'a dit Ronny Broman, on a l'impression à entendre Ronny Broman qu'on va jeter le bébé avec l'eau du bain. Parce que c'est pas parce que les droits de l'homme et les valeurs de liberté, égalité, fraternité ont été considérés comme universels par des pays qui finalement ont fait aussi du mal, que ces valeurs sont à rejeter. Enfin, je ne pense pas d'ailleurs que c'est ce que tu souhaitais dire. Mais du coup, quand même, puisqu'on parlait des révolutions arabes, et avant on peut parler de Tiananmen, il faut quand même se rappeler que cette idée que les droits de l'homme seraient quelque chose de purement occidental est quand même démentie par les faits. Je veux dire que à Tiananmen et les révolutions arabes, même si finalement elles ont échoué, elles ont été quand même faites au nom de valeurs d'émancipation, de liberté et d'égalité, qui montrent bien que c'est pas juste un fantasme occidental et qui serait juste bon pour les occidentaux. Ça me paraît une forme de relativisme extrêmement grave. Donc oui, les valeurs, les droits de l'homme sont plastiques parce que forcément ils évoluent. Je veux dire qu'au départ, il y avait seulement ce qu'on appelle les libertés civiles et politiques, et puis là-dessus sont venus les droits économiques et sociaux, et puis aujourd'hui tous les droits liés à la bioéthique, liés à l'écologie. Donc oui, les droits de l'homme évoluent parce que en même temps, ils sont l'expression, la transcription dans le langage des droits et de la politique d'un certain nombre de valeurs. Donc oui, bien sûr, ils évoluent. Oui, bien sûr, il ne faut pas simplement les décliner comme un catéchisme, mais il faut essayer de les faire passer dans les faits.
Oui, c'est peut-être d'ailleurs ça qui est une des limites de l'universalisme, c'est qu'à partir du moment où on déclare une valeur universelle, si on va au bout de la logique, c'est bien qu'on cherche à la faire appliquer le plus largement. Benoît Thiolin, je voyais que vous vouliez réagir.
Oui, parce que d'abord, je voudrais quand même rappeler que dans les révolutions arabes, il y a la Tunisie et qu'elle n'a pas, pour l'instant, totalement mal terminé, loin de là. En Tunisie, il y a quand même une expérience intéressante, démocratique, et ils sont en train de faire leur apprentissage de la démocratie. C'est intéressant et il faut le rappeler. Ensuite, j'aimerais bien justement creuser un tout petit peu cette question de révolution arabe, parce qu'il y a beaucoup de bêtises qui ont été dites sur le numérique et la révolution arabe, alors qu'en fait, il y a quand même aussi des choses très fortes et très intéressantes et qui rejoignent les débats qu'on vient d'avoir. C'est très intéressant de voir en réalité ce qui se passe 2 mois avant la révolution en Tunisie, qui est encore une fois celle qui a ensuite diffusé ailleurs. 2 mois avant, on l'a pas beaucoup noté, il s'est passé quelque chose d'extrêmement intéressant dont on pourrait se dire que c'est un truc complètement occidental, complètement numérique, qui concerne que les Américains et les gens connectés. Ça a été la diffusion par Wikileaks. Vous savez que Wikileaks sort de manière très séquencée des câbles diplomatiques. Et 2 mois avant la révolution tunisienne, c'est pas un hasard, ils sortent les câbles diplomatiques sur la Tunisie. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Eh bien, il y a une énorme conversation qui s'engage en Tunisie, conversation numérique, qui analyse, les gens s'échangent les télégrammes diplomatiques de l'ambassade des États-Unis, qui constatent ce qu'ils savaient, évidemment. Ils n'ont pas découvert que Ben Ali et la famille Trabelsi avaient organisé des prébendes de la corruption, ils le savaient. Mais là, c'était concret. Ils avaient un ambassadeur américain qui disait, dans telle boîte, ils ont pris 20%, ils ont pris telle chose, etc. Bon. Ce que je veux dire par là, c'est que le numérique, c'est ça ce qui est intéressant, sur un sujet qu'on pourrait croire complètement inintéressant que les élites connectées du monde occidental, ben là, on en a une démonstration très concrète. Et quand vous regardez dans les deux mois qui précèdent la révolution en Tunisie, vous avez une explosion des connexions, en fait, sur les médias sociaux. Pourquoi? Ben parce que les Tunisiens vont sur les médias sociaux discuter. Ils font leur expérience du débat public sur ces questions-là.
Mais est-ce que ça, c'est lié juste à l'outil, Benoît Thiolin, ou ça serait lié aussi peut-être à des valeurs qui seraient propres au numérique?
Mais non, mais vous avez entièrement raison. Sauf que je pense que dès qu'on s'aventure sur le terrain des valeurs, on est incapable, en réalité, d'aller plus loin que du constat. Et je pense qu'après, on est devenu prudent. On n'a pas envie de refoutre le feu à la planète. Mais en revanche, ce qui est quand même vachement intéressant, c'est de voir que quand on met un moyen, ce qu'est le numérique, à la disposition des gens, quels qu'ils soient, et qu'ils ont, par exemple, un sentiment d'injustice, qui est quelque chose que je crois on partage dans l'humanité, eh ben ils s'en servent de la même manière à Tunis, à Paris, à Londres ou au Caire.
Rodney Broman, une petite réponse et ensuite on écoutera Karim Adeli.
Oui, je voulais... Daniel Hochak a eu bien raison de me reprendre sur la tentation qu'on a toujours de sombrer dans une sorte de critique tous azimuts. Au fond, ce que je voulais dire, ma seule critique, et ce sera en trois mots, ma critique principale, ou en tout cas mon analyse, l'élément fondamental de mon analyse sur les droits de l'homme, c'est que c'est tout autant un instrument de pouvoir qu'un instrument d'émancipation du pouvoir. Les droits de l'homme ont servi à dominer, et ils ont servi aux dominés à s'émanciper de cette domination. Si on ne pense pas à les deux à la fois, je crois qu'on loupe une dimension essentielle de cette philosophie ou de cette politique.
Merci beaucoup, et donc on se retrouvera l'année prochaine. Merci mille fois, Hervé.
Alors on vous donne donc rendez-vous à toutes et à tous pour la 30e édition. Je voudrais bien entendu remercier vivement toutes les équipes du rectorat et toutes celles du festival, toujours très présentes et très attentives pour nous aider à travailler, à préparer ces rencontres. Merci à Fabien Gosset, Xavier Atto et François Rivalan qui assuraient la prise de son, à Gilles Manet pour la sonorisation, à Pascal Morel qui est chargé de production. Un immense merci à Mathieu Maraudin qui s'est chargé de toute la coordination.
Bravo, merci.
Et à Nathalie Salle qui réalisait ces rencontres.
Merci.
À bientôt et donc, on l'espère, à l'année prochaine.